dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Salut à tous, bon week-end à l'écoute de France Bleu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à embarquer avec nous pour un voyage dans le temps, passé, présent, futur. On sera accompagné aujourd'hui d'un ours chômeur, grand-père. Il est humoriste, auteur et producteur et a fait les belles heures de Canal+ en écrivant pour les Guignols. Bonjour Bruno Gassio.
Bonjour, je ne suis pas humoriste.
Un peu quand même.
Mais pas moi, ce que j'écris.
Bon, vous êtes un ours, chômeur et grand-père, ça c'est
ça,
vous
c'est
qui le marquez dans votre profil Twitter.
Je suis un peu ours, c'est vrai, j'avoue.
Vous serez au théâtre La Scène Parisienne dans le 9e arrondissement de Paris à partir du 3 octobre pour les Pâtes à l'ail. Mmh. C'est une pièce que vous avez écrite avec un pote d'enfance, Philippe Giangreco, avec l'envie au départ de jouer... De dire des bêtises, s'amuser, manger des pâtes et jouer de la guitare, c'est un beau programme ça quand même.
Ça c'est le point de départ. Et puis après, on a fait appel à un troisième, qui s'appelle Jacques-Carole Larrivée, et on lui a dit, on est des ours, et on est aussi un poil fainéant. Donc
ah ouais.
Il faudrait que tu nous aides. Ouais, je suis un peu fainéant, j'avoue. Et donc on a commencé à réfléchir à ce qui nous préoccupait aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui ?
Alors, les petits-enfants, évidemment, la famille, évidemment, parce qu'on est heureux que ça existe. Et puis aussi, on a plein d'amis qui ont entre 58 et 64 ans et qui nous ont quittés dans les 2-3 dernières années. Et on s'est dit, on est quand même entouré par la mort. Et si ça nous arrivait ? C'est un tabou, la mort. On n'ose pas dire le mot.
Si ça nous arrivait, ça va nous arriver.
Alors oui, mais si ça nous arrivait vite, c'est ça l'idée.
D'accord.
Et je trouve que c'est culotté de notre part d'oser dire on va parler de ça. Et comme on l'a dit, c'est une pièce qui fait rire et qui est pas drôle. Le thème n'est pas drôle. Mais on s'est dit qu'est-ce qui se passerait si lors d'un dîner, ce qu'on en fait, il y en a un des deux qui annonçait à l'autre, tu sais, j'ai un problème, et je pense que j'en ai pour 4 et 6 mois. Waouh. Et je ne voudrais pas vivre ma déchéance. Et je voudrais que tu m'aides à partir. Et je voudrais que ce soit ce soir.
Comment on arrive à rire de ça dans une pièce ?
On arrive à rire de ça parce que on est comme ça. Toute ma vie, et Philippe est un peu pareil, on a mis une distance entre nous et les événements. C'est soit une pudeur, soit une peur. Quel que soit le drame qui nous arrive, on en rit.
En sortant de cette pièce, vous pensez que les gens, justement, se parlent plus facilement de la mort ?
On a eu, à Lyon, on a eu plein de gens. Et un malheur monumental nous est arrivé, c'est-à-dire qu'une fille... qui était une amie de notre quartier à Saint-Étienne, est venue nous voir. Elle s'est marrée en sortant. Elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Et puis, je retournerai à l'hôpital demain. Je lui ai dit, pourquoi tu vas à l'hôpital ? Oh, c'est rien, c'est pas très grave. Et on a appris qu'elle était sortie de l'hôpital pour venir nous voir, qu'elle s'est marrée. Elle m'a raccompagné à la gare, parce que je rentrais à Paris juste après. On est resté une demi-heure au buffet. Elle est partie et elle est morte un mois après. Elle avait un cancer et ça faisait 2 mois qu'elle était à l'hosto. Elle ne nous l'a pas dit. Et ça nous a foutu par terre. Et puis, on a eu un couple, 2 personnes qui avaient 80 ans, qui nous ont dit « ça nous est arrivé ». On s'est posé la question. Et ça nous est arrivé, chacun, notre tour. Et l'autre aidé et maintenu l'autre en vie. Et on y est encore. Bravo, continuez ça. Et nous, on sort de là, on se dit « mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Et c'est tellement tabou qu'il y a une sorte de...
De lâcher prise ?
Ouais, les gens sont capables d'en lâcher prise après.
Les Pâtes à l'ail, allez-y vraiment. Les réservations sont ouvertes sur Internet, sur les sites habituels. C'est à Paris, à partir du 3 octobre, au théâtre La Scène Parisienne. Bruno Gassio, c'est parti pour notre voyage dans le temps. Vous accrochez ?
Yeah.
Saint-Étienne, vous naissez le 14 décembre 1958. Votre mère est papetière, votre père maçon, vous êtes fils unique. Vous détestez l'école, vous arrêtez donc d'y aller à 15 ans. Est-ce que vous avez été complexé comme beaucoup de personnes qui arrêtent les études tôt ? Est-ce que vous, ça a été un complexe dans la vie ?
Énorme, le syndrome de l'imposteur. Tous les matins, je me disais, quelqu'un peut ouvrir la porte et dire « faites voir les diplômes qui vous permettent d'être assis à cette place ». J'en ai pas. Sortez. Et je serai sorti. Parce que je me sentais... Et je me sens encore très peu légitime. C'est pour ça que
encore maintenant ?
J'ai repris des études, ouais. Je veux faire un master 2 de littérature.
Ouais. Ouais.
Je suis en train de préparer ça.
Et donc ce complexe, il se ressentait comment au quotidien, quand vous étiez enfant par exemple, ou adolescent on va dire ?
J'ai détesté l'adolescence. J'ai quitté l'école à 15 ans et demi, parce que je suis du mois de décembre, donc je n'ai pas repris en septembre. Ma mère m'a inscrit dans un apprentissage de typographe dans l'imprimerie, où elle travaillait elle-même. Je me sentais mal... quand je croisais des gens, parce que j'avais l'impression de ne connaître rien à rien. J'avais rien lu, C'est pas l'école que j'aimais pas, en fait, c'est les profs que j'aimais pas. J'avais une incompatibilité avec des professeurs. Il y en a deux qui m'ont sauvé la vie. Prof d'histoire géo, il tenait le ciné-club et il nous emmenait voir les films de Woody Allen. Et je trouvais ça formidable. Et la prof de français, elle était magnifique. Je crois que j'étais amoureux d'elle. Elle s'habillait toujours un peu court. Et un jour, j'ai vu qu'elle avait des bas. Et ce jour-là, j'ai été extrêmement troublé et je me suis dit, je ne veux jamais décevoir cette femme. Et elle me mettait des chiquenaudes derrière l'oreille. T'écris ça comme ça. Et je regardais, je dis, ah oui, oui, non, il ne faut pas que je la déçoive. Et du coup, j'apprenais.
Oui, maîtresse. Non, maîtresse. Oui, maîtresse. Non, maîtresse.
Ouais, un peu ça, ouais. Ouais, ouais.
Vous faisiez aussi de la figuration à la Comédie de Saint-Étienne. Vous écrivez, vous êtes pote aussi avec de grands dessinateurs de BD qui faisaient les Beaux-Arts. Et à 18 ans, vous débarquez à Paris et vous devenez assistant metteur en scène. La suite de votre parcours, Canal+, Les Guignols, vos engagements, vos combats, on en parle dans un instant. Bruno Gassiot est notre invité dans le rétro sur France Bleu. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le rétro sur France Bleu, c'est chaque week-end avec un invité. Il sera le 3 octobre au théâtre La Scène Parisienne pour les Pâtes à l'ail. C'est Bruno Gassiot.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Et on rappuie sur le bouton pour se télétransporter à nouveau, on y va. Nous sommes en 1976, en pleine manif de la CGT. Vous, vous êtes là avec vos potes anarchistes. Vous dites, aujourd'hui, on appelle cela les Black Blocs. En 76-77, on était juste les anars. C'est pas exactement pareil, quand même.
Si, les mêmes objectifs, c'était de foutre un peu le bordel avec une...
Moins violent, peut-être, non?
C'est violent, mais c'est organisé. C'est-à-dire que les Black Blocs, ils ont une violence très organisée, dirigée contre la police, très clairement, et contre des institutions, des banques, des choses comme ça. Ils ne s'en prennent jamais aux biens personnels. Ils brûlent pas de bagnole, les Black Blocs, normalement. Ils ont une violence anarchiste. Ils sont pour, sans doute, je suis plus tout à fait avec eux, mais pour le changement d'une société par une révolution, et ils s'en prennent donc aux forces de l'ordre. Alors oui, dans une manif, ça gêne. Nous, on était beaucoup plus ironiques que ça. Il y avait tous les Beaux-Arts de Saint-Étienne qui étaient... quand on allait dans les manifs.
Et c'est plus le cas maintenant dans les manifs, là, sur les gilets jaunes avec les Black Blocs, c'était pas la même chose quand même.
Bah, je sais pas, très honnêtement, moi je les ai vus, je suis allé, j'y vais le samedi, hein, j'y vais encore manifester pacifiquement le samedi, je les soutiens toujours. Mais quand ils arrivent, je me tire, parce que je sais que ça va péter dans tous les coins et que les flics, eux, vont pas faire la différence entre moi qui me promène ou qui manifeste et les Black Blocs, ils vont taper sur tout ce qu'il y a sur leur trajet. C'est bien ce qui pose un problème d'ailleurs, c'est qu'ils tapent sur tout le monde.
On va se télétransporter à nouveau. On change d'ambiance maintenant.
Plus Black Bloc ?
Non, plus Black Bloc. Maintenant, nous sommes dans les locaux de Canal+, en 1992. C'était pas cette ambiance-là. Après avoir tourné dans les cafés-théâtres parisiens, vous devenez co-créateur et co-auteur des Guignols de l'Info. On vous en parle encore beaucoup de cette époque et donc des Guignols. C'est gonflant ou c'est flatteur ?
Bah, ça dépend comment on en parle. Généralement, on en parle en bien. Les gens qui viennent me voir, ils regrettent que ça n'existe plus. Je peux rien y faire, c'est comme ça. Et je ne ferai rien pour dénigrer ça.
Et alors les gens qui vous en parlent en mal ?
Ils n'en m'en parlent pas en mal, ils m'en écrivent en mal. Vous étiez des fouteurs de merde, les Guignols c'était nul, vous avez pourri la société, c'est de votre faute si plus personne croit dans la politique, alors qu'il y a un nombre de thèses assez incroyables qui ont été écrites sur les Guignols et qui disent tout le contraire.
Comment vous avez vécu la déchéance de ce programme, puisque donc vous êtes parti en 2007, ça a continué jusqu'en juin 2018, il y a eu beaucoup de changement, changement de ton aussi. Comment vous avez vécu cette déchéance? Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est une déchéance vers la fin quand même, les Guignols.
Alors j'ai fait le truc le plus malin du monde. Quand je suis parti des Guignols, comme je me souviens que quand Jean-François, Alain et Benoît Delépine étaient partis.
Les deux auteurs qui bossaient avec vous.
Qui, au départ, on leur demandait sans arrêt, alors c'est moins bien maintenant, hein. Maintenant que vous n'êtes plus là, c'est moins bien. Et ils étaient vachement embêtés pour répondre. Ils n'avaient pas envie de dire que ce que je faisais après eux, c'était mauvais, mais ils n'avaient pas envie non plus d'en dire du bien, parce qu'ils disaient, on peut pas leur dire que c'est super bien, parce que ça voudrait dire que nous... Enfin, c'était compliqué. Et moi, j'ai décidé de ne plus jamais regarder l'émission. Parce que je pouvais répondre, je ne la regarde pas.
Ouais, mais sans la regarder, vous aviez des échos, on en parlait dans les médias.
On dit je vais arrêter ce programme, puis il y a un tollé, puis on dit j'ai jamais dit que je voulais arrêter ce programme, ce qui est vrai. Monsieur Bolloré n'a jamais dit qu'il voulait arrêter les Guignols, il voulait changer le Grand Journal. Donc il a changé le Grand Journal, il a laissé les Guignols, sauf que il l'a fait avec d'autres auteurs, d'autres directeurs artistiques. Et donc du coup... C'est devenu moins bien, moins intéressant.
C'est une technique d'actionnaire que de tuer
non, c'est
à petit feu un programme pour finalement s'en débarrasser.
On fait dysfonctionner quelque chose en nommant des gens dont c'est pas le travail, ou qui sont pas bons, ou qui sont rarement aux ordres. J'y crois pas qu'on donne l'ordre de casser une entreprise, ça existe pas. Mais simplement, on met des gens qui comprennent pas le travail dans lequel ils sont, ou qui n'ont pas envie de le faire, ce travail. Et on les surpaye, parce qu'ils trouveront jamais ailleurs aussi bien. Donc ils restent. Et puis à un moment, ça fonctionne plus. Et je me souviens que j'étais allé à la fête de fin des Guignols, et les manipulateurs, les gens qui étaient là, disaient... Oh, on préfère que ça s'arrête, on en avait marre. C'est-à-dire qu'on les fait dysfonctionner, puis au bout d'un moment, on dit, voyez bien, ça marche pas, il faut arrêter. Ah ben ouais, puis les gens qui sont à l'intérieur disent, oui, oui. Ben, il faut juste avoir du temps et de l'argent. Et un actionnaire riche, ça a du temps et de l'argent. Donc ça réussit ce que ça veut.
Il sera au théâtre La Scène Parisienne à partir du 3 octobre. C'est donc à Paris, la pièce s'appelle Les Pâtes à l'ail. Une pièce qui fait rire avec un sujet pas drôle. Bruno Gassiot est avec nous encore pendant quelques minutes. On revient dans un instant sur France Bleu. Merci d'avoir choisi France Bleu pour vous accompagner ce week-end. Notre invité aujourd'hui, un homme engagé, ex-auteur des Guignols, scénariste, producteur, comédien. Nous sommes avec Bruno Gassiot.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
C'est quoi cette... Vous faites des grimaces.
Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. J'écris des livres aussi.
Bruno, vous avez écrit aussi quelques livres, justement. Deux, notamment, sur la liberté d'expression.
Ouais.
L'un en 2004, Le Guignol et le magistrat. L'autre en 2010.
Avec Philippe Bilger.
Et l'autre en 2010, peut-on tout dire ? Est-ce que cette liberté est de plus en plus limitée ? On entend dire souvent, on se le dit aussi d'ailleurs parfois, c'est fou, on ne peut plus rien dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois qu'on peut toujours tout dire. Normalement, la loi n'a pas changé. Je n'ai pas noté que des lois avaient été changées. Donc, on n'a pas le droit à la diffamation, on n'a pas le droit à l'injure publique, on n'a pas le droit au racisme, on n'a pas le droit à l'antisémitisme, on n'a pas le droit de faire l'apologie du meurtre ou de la pédophilie. Et ça me va très bien. Les artistes s'autocensurent parce qu'ils se disent « je vais me couper une partie du public, je vais perdre des gens ». Mais en fait, ils ont toujours le droit de dire des choses. On parle beaucoup de choses choquantes, de gens qui sont très sexistes ou qui font des blagues sexistes dans des émissions sexistes. Et on dit « oh, on peut plus rien dire ». Ben moi, je suis d'accord, arrêtez de les dire ces trucs-là, parce que ça sert à rien.
Mais il faudrait arrêter de les dire. Ah, ça sert à rien, vous pensez que ça sert à rien ?
Il y a des choses que... On peut pas faire l'apologie du sexisme, l'apologie de l'homosexualité, de l'homophobie plutôt. On ne peut pas faire l'apologie de blagues grasses, parce que on a envie de tout dire. Moi, je préfère, franchement, il y a des endroits où je préférerais que certains ferment leur gueule, qu'ils fassent pas des grosses blagues grasses. Ou alors, dans le cadre d'une émission où c'est blague grasse. Et on sait, quand on va sur cette émission, qu'on va entendre grosses blagues bien grasses. Après, ça me gêne pas plus que ça qu'on dise aux gens, ça serait bien que vous soyez polis. Par contre, l'expression qui concerne l'intelligence, oser dire des choses sur des politiques en général, qui soient transgressives, dire par exemple qu'il faudrait donner un salaire à vie aux gens plutôt que de les envoyer travailler dans la précarité, c'est pour moi beaucoup plus transgressif. Peu de gens disent ça. Il y a Bernard Friot qui dit ça, et il est très peu invité à la télévision. Cette expression-là, oui, elle est limitée. Mais l'expression de la vulgarité à la télé, on a tous le droit d'être vulgaire hein, maintenant, hein, tous. Enfin, regardez certaines chaînes de télé, c'est incroyable.
C'est quoi la vulgarité à la télé pour vous, par exemple ?
C'est être bête et penser qu'on peut s'exprimer super bien et qu'on vous laisse beaucoup de place. Et l'autre vulgarité, c'est de montrer son cœur plutôt que son cul. Je préfère qu'on montre son cul à la télé que son cœur.
Pourquoi ?
Parce que c'est impudique et que ça fait vendre. Et que le fait de faire vendre avec son cœur, je trouve ça d'une vulgarité, mais crasse.
Ça peut toucher les gens aussi.
Oui, c'est ça qui est vulgaire, c'est de les toucher à travers ça. Il y a des gens qui passent leur vie à vendre leur cœur.
Et là, c'est
ça me gêne quand c'est des politiques. Ben oui, quand des politiques qui vendent leur cœur. Fais le job, mec, t'es payé pour faire un job. Ou nana, d'ailleurs, parce que c'est sexiste. Et faites le job pour lequel vous êtes fait. Mais arrêtez de nous vendre de la com avec votre cœur, quoi. Ne le vendez pas. Montrez-le pas. Juste, on verra au bout d'un moment que vous en avez un.
Vous êtes accro, vous, aux réseaux sociaux ou pas ? J'ai l'impression, vous passez sur Twitter et tout ça, vous passez pas mal de temps, non ?
À Twitter, oui, c'est génial Twitter, j'adore. L'actualité le matin, quand je me lève, j'ouvre Twitter et j'ai tous les articles à lire. Et après, je regarde ce qu'on en dit. Puis,
les commentaires.
Puis après, c'est de la rigolade, quoi. Après, j'adore répondre aux gens et j'adore les énerver. J'adore énerver les Républicains en marche.
On va se télétransporter, dernier voyage. Nous sommes dans votre salle de bain. Remettez cette serviette, s'il vous plaît.
C'est ça, sortez, mais qu'est-ce qu'elle fait là?
En 2038, vous avez 80 ans, vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites?
Il faut vraiment que tu te fasses tirer la peau.
Ce sera pas fait avant déjà?
Non, j'ai vendu mon âme au diable pour pas vieillir, donc ça va, mais 80 ans, je pense, j'ai peur de ça, c'est très gênant ce que vous venez de faire.
Pourquoi?
J'ai jamais envisagé 80 ans, jamais.
Alors 70 ans, vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites?
Putain, on joue encore la pièce.
Ce serait bon ça, c'est ce qu'on vous souhaite Bruno Gassiot. Merci à vous d'être venu dans l'émission.
Merci à vous.
À bientôt. Les Lyonnais ont adoré votre pièce, Les Pâtes à l'ail, en début d'année, puisque vous êtes passé par Lyon. Pièce à découvrir dès le 3 octobre à Paris, au théâtre La Scène Parisienne. Tragique, drôle, sarcastique, à la vie, à la mort. Invitez-vous à la table de ces deux amis autour d'un bon plat de pâtes. Vous pleurerez, vous rirez. À bientôt Bruno Gassiot.
À bientôt Déborah.
Merci à vous d'avoir fait ce petit voyage avec nous. Si vous êtes arrivé en cours de route, c'est dommage, mais c'est pas grave. Il y a le podcast sur francebleu.fr. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Salut.